L'occasion, justement, à travers Tout va bien. T'as vu, je le replace encore une fois. Hein, c'est du film c'est Tout va bien.
Alors, juste un petit mot sur le titre, effectivement, du film, si j'ai encore une seconde. C'est donc le film Tout va bien, effectivement, on l'a présenté au début de l'émission en disant bah, c'est un bon souhait pour la journée, une journée, on va dire tout va bien, tant mieux, même si on sait que c'est pas vrai. Mais le titre du film, c'est parce qu'en fait, quand ces jeunes qu'on voit dans le film téléphonent à leurs parents pour leur donner quelques nouvelles, pour ceux qui d'ailleurs téléphonent à leurs parents, parce que c'est pas toujours le cas, il y en a qui ont fui effectivement, y compris leur famille, mais pour ceux qui téléphonent à leurs parents pour les rassurer, ils disent toujours, même si leur situation est loin d'être celle-là, ils disent toujours à leurs parents tout va bien, d'où le titre du film, effectivement, voilà.
C'est quasiment presque pour s'en convaincre parfois.
Oui, c'est ce qu'on appelle la méthode Coué, effectivement, c'est ça, c'est de dire, si, tout va bien, même si on sait que les choses sont beaucoup plus compliquées. Mais donc, voilà. Et encore une fois, pour en venir à cette projection ce soir, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible, et ceux qui nous écoutent vont se décider aussi à venir si c'est pas le cas, s'ils n'ont pas déjà pris la décision, parce qu'on a fait de la formation sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Mais c'est aussi effectivement l'occasion, comme on le disait aussi, d'entendre des témoignages de terrain, puisque c'est un documentaire, des témoignages de terrain, et ce sont ces jeunes qui parlent. On ne parle pas pour eux, ce sont eux qui parlent.
Et ça, c'est essentiel d'avoir cette vraie parole, j'ai envie de dire, sans filtre. Moi, ça me fait le parallèle, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, d'un film qui m'avait marqué aussi sur cette histoire migratoire et sur les conditions d'arrivée. C'était l'histoire de Souleyman, qui était sorti en 2024 de Boris Lorchkine.
Qui avait eu un prix à Cannes, je crois.
Le comédien qui jouait Souleyman qui avait été primé tout à fait, c'était Abou Sangaré de mémoire.
Bravo pour la
culture. J'ai des fiches, Didier.
Moi, je n'avais pas ces noms-là en tête non plus.
Mais tu penses bien que je n'ai pas tout comme ça, mais les joies du numérique font qu'on a les infos. En tout cas, c'est aussi de rendre visibles des réalités qui parfois nous échappent. Et ça, cette notion, elle est hyper, enfin, je l'ai trouvée, moi, hyper importante. Ces réalités qui nous échappent en tant que grand public, on est pris dans nos vies, nos réalités, nos fonctionnements. Et finalement, on arrive à se positionner, j'ai envie de dire presque politiquement, à travers notamment les discours politiques, à travers les médias, à travers les informations, sans avoir finalement ces paroles de première main, mais en tout cas, c'est cette parole de témoignage.
C'est ça.
Et c'est l'occasion, à travers certains films documentaires ou films romancés. Hein, oui. L'histoire de Souleyman, c'est pas tout à fait documentaire, mais en tout cas, ça retrace son parcours.
C'est tout à fait ce que les intéressés vivent, hein, effectivement. Il suffit de voir les gens qui portent les repas Uber Eats et autres, hein, à travers les rues de nos villes. On voit bien, effectivement, quelle population c'est. Ce sont effectivement ces gens-là qui sont effectivement aussi des précaires, comme les femmes dont on parlait tout à l'heure et dont on remet en cause les droits au travail. Voilà.
Ben voilà. En tout cas, voilà, allez voir ces films, ça permet d'ouvrir les perspectives, de rentrer peut-être un peu plus dans la réalité de ce que vivent, et notamment les mineurs non accompagnés, avec la projection ce soir au Ciné-Pâté d'Evreux, le film Tout va bien, qui sera suivi par un débat mené par Amnesty International et le réseau d'éducation sans frontières, c'est RESF, ça. Les deux antennes hébroïciennes.
C'est ça, et c'est à 19h15.
Et merci de rappeler l'heure, oui, parce que je n'avais pas le dire, tu vois, c'est 19h15 effectivement, où vous retrouverez ce film à l'affiche avec le débat. Merci beaucoup Didier d'être passé à nouveau par nos micros.
Merci pour l'invitation.
Eh bien, on t'en prie, on te réinvitera encore à l'occasion. Merci Cédric d'être passé également par nos micros, ça fait plaisir.
Merci.
Nous, on vous souhaite une bonne journée, restez à l'écoute de nos programmes, parce qu'ils sont cool.
7h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Un nouveau journal international avec vous, Martin Guez, à la une ce mercredi noir au Liban.
Une journée en enfer, nous rapportent nos correspondants sur place. La capitale est à l'arrêt, des immeubles entiers sont éventrés. Les ambulances tentent de se frayer un chemin à travers les colonnes de fumée. Voilà les quelques images qui nous parviennent du pays. Au lendemain de la pire journée de frappe israélienne depuis le début de la nouvelle guerre entre l'État hébreu et le Hezbollah, plus de 200 morts pour la seule journée de ce mercredi, pour la plus grande majorité des civils. Frappe qui remet en cause le cessez-le-feu, trêve décriée en Israël, vous l'entendrez, ou l'absence de stratégie du Premier ministre Benjamin Netanyahou est critiquée dans l'État hébreu. Une trêve qui a cependant permis à de premiers bateaux de passer à nouveau par le détroit d'Ormuz, même si cette réouverture se fait au compte-gouttes. RFI a pu joindre un des 20 000 marins bloqués dans le détroit. Son cargo est toujours amarré dans un port iranien. Nous serons ensuite au Bénin avant la présidentielle de dimanche qui opposera dans les urnes seulement deux candidats, celui du pouvoir, Romuald Ouadani et Paul Hounke. Magali Lagrange nous plante le décor dans un instant. Enfin, des serpents et des crocodiles pour sécuriser sa frontière. Voilà la drôle d'idée de l'Inde qui élabore une barrière biologique face au Bangladesh.
Jour de deuil ce jeudi au Liban, après donc un mercredi noir.
Des tueries d'une ampleur épouvantable, estime Volker Türk, le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, et un bilan qui ne cesse de s'alourdir, au moins 254 morts et plus de 1000 blessés pour la seule journée d'hier. La pire journée depuis le début de la nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah, débutée le 2 mars dernier. L'État hébreu annonce avoir mené sa plus grande frappe coordonnée contre le mouvement chiite pro-iranien, mais ce sont surtout des civils qui ont été touchés à tir à Saïda, dans la plaine de la Beka, mais aussi dans des quartiers résidentiels de Beyrouth, où s'est rendue notre correspondante Sophie Guignot.
Les sirènes des ambulances hurlent à travers Beyrouth. Aux portes de l'hôpital américain, les secouristes vont au plus vite pour emmener les nombreux blessés sous le regard de familles inquiètes à la recherche de leurs proches comme Nabila.
On attend des nouvelles de ma sœur et de ses fils. Ils sont blessés, ils sont dans un autre hôpital. Et la fille de ma sœur est morte, elle avait un bébé.
Ces frappes, les plus violentes depuis le début de la guerre, ont été menées dans des zones très densément peuplées sans aucun avertissement pour faire le plus de victimes possible. Les autorités libanaises condamnent un nouveau massacre dont les civils paient le prix fort.
Ils ont bombardé sans avertissement. Regardez ce que fait Israël. Ils bombardent les civils. Il faut que tous les pays du monde voient ce qu'Israël fait.
Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour sauver des victimes sous les décombres. Face à l'afflux de blessés, les hôpitaux de Beyrouth font appel aux dons du sang. Sophie Guignon, Beyrouth RFI.
Et le Hezbollah a dit ce jeudi avoir lancé des roquettes sur Israël en réaction à sa violation du cessez-le-feu. Le mouvement chiite pro-iranien estime avoir respecté la trêve hier, alors que l'ennemi ne l'a pas fait, selon les mots de son communiqué. Cessez-le-feu qui doit être discuté à Islamabad, où une délégation iranienne doit arriver aujourd'hui en vue de pourparler. C'est ce qu'indique l'ambassadeur iranien au Pakistan. Hier, le président français Emmanuel Macron a lui téléphoné à Donald Trump comme à Massoud Pezeshkian. Il a insisté sur la nécessité d'étendre le cessez-le-feu au Liban, une condition nécessaire selon lui pour que l'accord soit crédible et durable. Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot dénonce lui des attaques intolérables et dit s'associer pleinement à la journée de deuil au Liban.
Des frappes israéliennes sur le Liban qui constituent un grave danger pour le cessez-le-feu.
Une alerte de l'ONU donnée ce matin alors que la trêve de 15 jours en Iran est entrée en vigueur hier. Une trêve décousue, les déclarations et démentis se multiplient. Le président du Parlement iranien, Mohammad Khalifaf, évoque un cessez-le-feu déraisonnable après les pires bombardements israéliens sur le Liban depuis le début de la guerre. Une trêve très polémique par ailleurs en Israël, où l'on retrouve notre correspondante Frédéric Misselin. Frédéric, ce matin, les journaux israéliens mettent en avant les nombreuses réactions politiques dans le pays. Elles pointent l'absence de stratégie de Benjamin Netanyahou.
Oui, au début de la guerre, la classe politique israélienne s'était rangée comme un seul homme derrière le gouvernement. Aujourd'hui, c'est la critique qui domine. Benjamin Netanyahou a menti, dit le chef de l'alliance de gauche, Yair Golan, affirmant qu'il parlait d'une victoire historique. Aucun des objectifs n'a été atteint. Le Premier ministre s'est voulu rassurant et toujours belliciste hier soir lors d'une allocution télévisée en disant « L'Iran est plus faible que jamais, la guerre n'est pas terminée » et surtout, je cite, « Le cessez-le-feu a été décidé en coordination complète avec les Américains ». Ici, beaucoup n'y croient pas. Israël n'a même pas été consulté sur cette trêve, s'insurge le chef de l'opposition au Parlement, Yair Lapid. Pour l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, le gouvernement a vendu des illusions, des promesses creuses. Et puis tout à droite de l'échiquier politique, il y a une crainte. Ce cessez-le-feu accorde au régime iranien la possibilité de se réorganiser, jugent les partis nationalistes. Israël doit voter cette année. La bataille électorale a donc clairement commencé. Mais avant cela, l'éditorialiste du journal Yediot Aronot résume. Israël va devoir choisir comment se sortir du piège, faire exploser l'accord ou accepter des concessions.
Merci beaucoup Frédéric Misselin. Matin en direct de Jérusalem sur RFI.
Une trêve qui semble en revanche tenir pour le moment entre l'Iran et les États-Unis.
Une trêve conditionnée à la réouverture du détroit d'Ormuz que quelques navires ont pu franchir hier. Mais vraiment, c'était au compte-gouttes. Seule une poignée d'entre eux ont pu se risquer dans les eaux du Golfe où près de 20 000 marins attendent toujours leur évacuation. RFI a réussi à entrer en contact avec l'un d'entre eux, un marin indien bloqué sur un cargo en Iran à la frontière avec l'Irak. Un marin joint par Nicolas Feldman.
Depuis l'annonce d'un cessez-le-feu, Moïse n'entend plus le bruit des missiles et des bombardements. Cet Indien de 23 ans est bloqué avec 4 autres compatriotes à bord d'un cargo iranien et jusqu'à présent, les frappes d'Israël et des États-Unis l'empêchaient de quitter le port.
Quand la guerre a commencé, notre bateau se trouvait au Koweït, mais les autorités portuaires nous ont dit qu'elles n'acceptaient pas de navires iraniens. On a donc été obligés de repartir vers l'Iran et là, ça fait 30 jours qu'on est bloqué. On est à quai, dans le même port, on ne peut pas prendre la mer, donc on reste tout simplement à bord du bateau.
À bord de ce bateau, l'équipage est tout de même ravitaillé en eau et en nourriture, mais impossible pour le moment de fuir l'Iran.
Le propriétaire du bateau m'a fait comprendre qu'il n'y avait aucun vol et que la situation était trop dangereuse pour partir. Il m'a dit, tu peux rester sur le navire, c'est mieux pour toi. Depuis, j'envoie des messages au gouvernement, s'il vous plaît, aidez-nous à quitter l'Iran. Beaucoup d'Indiens sont ici. Faites quelque chose pour nous. On veut tous rentrer en Inde.
Moït ne croit pas que le cessez-le-feu puisse durer. Trump, dit-il, parle de la fin de la guerre tous les 2 à 5 jours. Mais plus le temps passe, plus la situation est dangereuse.
Et la reprise totale de l'activité dans le détroit pourrait prendre du temps. La marine des gardiens de la Révolution a annoncé ce matin que les navires passant le détroit d'Ormuz devraient emprunter 2 routes alternatives proches des côtes iraniennes, invoquant la possibilité de présence de mines sur l'itinéraire habituel plus au large.
RFI, il est 7h07 à Cotonou, comme à Parakou, à Lokossa, bref, tout le Bénin qui se prépare avant l'élection présidentielle de dimanche.
La campagne qui bat son plein, elle se termine demain. Le Bénin, où Patrice Talon va quitter le pouvoir après 2 mandats de 5 ans. Près de 8 millions de Béninois devront choisir entre Romuald Ouadani, successeur désigné du président sortant, et Paul Ongpe, le candidat des FCBE. Un scrutin que couvre pour RFI notre envoyé spécial Magali Lagrange. Bonjour Magali.
Bonjour.
Seulement 2 candidats sont donc en lice, ce qui fait grincer des dents une partie des Béninois, Magali.
Eh oui, 2 candidats. Romuald Ouadani, dauphin du président sortant, 49 ans. Il a été ministre de l'économie et des finances pendant les 10 ans de Patrice Talon au pouvoir. Un profil de technocrate qui ne s'était jamais présenté à une élection avant celle-ci. Le second, c'est Paul Ongpe, candidat des forces Kori pour un Bénin émergent, opposition dite modérée, 56 ans. Il a été maire de la commune de Bopa, ministre sous la présidence de Thomas Boniaï, le prédécesseur de Patrice Talon. Il avait été aussi colistier lors de la dernière présidentielle en 2021. Les absents de ce scrutin présidentiel, comme il y a 5 ans, les démocrates, le principal parti de l'opposition, dont le dossier de candidature a été invalidé par la commission électorale, faute de parrainage suffisant.
Et vous le disiez Magali, il n'y a donc qu'un seul candidat face à Romuald Ouadani, et pourtant Paul Ongpe ne rassemble pas l'opposition béninoise.
Non seulement le parti des démocrates n'a pas donné de consigne de vote à ses militants pour cette présidentielle, mais certaines figures du parti, des voix très critiques hein, pendant la présidence de Patrice Talon, ont apporté leur soutien à Romuald Ouadani. C'est le cas d'Éric Ondété, l'ancien vice-président des démocrates, de Chabi Yahi, le fils de l'ex-président Thomas Boniaï, qui ont depuis été suspendus du parti, un parti actuellement en crise. Au-delà de cette fragmentation de l'opposition, comme l'évoque un analyste, il y a les critiques à l'égard de Paul Ongpe. Certains lui reprochent d'avoir été parrainé par la mouvance présidentielle pour pouvoir se présenter, d'avoir passé un accord avec elle avant les législatives de janvier. Il voit donc cette présidentielle comme un match amical. Paul Ongpe, lui, s'en défend.
Alors voilà pour les forces en présence. Côté campagne, c'est bientôt la fin de 2 semaines à sillonner le pays pour les candidats. Comment ça s'est passé ?
Eh bien, les 2 duos de candidats se sont effectivement déplacés dans les différentes régions du Bénin, y compris dans le nord où l'armée lutte contre des groupes terroristes. Le président sortant, lui, s'est fait discret pendant cette campagne. Pour autant, une partie des électeurs sont peu attentifs à ce qui s'est passé, à ces 2 semaines de campagne, aux arguments, c'est ce que souligne un analyste. Certains ont l'impression de ne pas avoir vraiment le choix. Certains ont l'impression aussi que Romuald Ouadani a été imposé par Patrice Talon. Plus généralement, une partie des Béninois regrette un manque de pluralisme.
Your heart is made.
ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais.
Bon, bah lui il va me prendre la tête.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif.
Eh bien on va déjà habituer nos auditeurs à ces bruits qu'ils vont entendre.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Success, not really on it. And forget about those friends that when you're down, they don't really care. Sometimes I feel like I'm nothing. I feel like I'm nothing. No, 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 no. I can do something in my life. So mama keep telling me you can do it. If I'm enough, your ways, but there's no limit. My funny kid, who ya, what me call no.
Je reste au top pour faire mes peurs, j'ai besoin de love. J'utilise mon énergie.
énergie, ma force, mon sixième sens, ma clique, mon périmètre, ma horde. Pour vaincre ma haine, vaincre ma rage, vaincre ma peine. Je suis pyromane, le black Apache. Bang, bang, je suis trop au top pour qu'on vienne prendre ma place. Dang, dang, et mon coup dans ce monde de glace. À tu j'y puis, j'avais mon premier scud dans les bacs. Back in the day, je suis arrivé avec un sex track. Brazzaville, c'était le départ. Dans l'académie de la panthère noire, j'étais le départ. On est dans ce que nous sommes. Brasse des millions pour ton crew, pour ta propre personne. Partage ton histoire, ton savoir, équilibre la nôtre. Affûte bien tes lyrics pour qu'aucun des nôtres vôtre. Conseil de vétéran, mais âme d'enfant quand je parle. Mon crayon maquille la feuille, mais ne maquille pas mon drame. Personne ne m'a expliqué, j'ai nagé dans mes larmes. Je m'en sors peu à peu en restant loin de mon arme. Si je veux la paix dans ma vie et que je veux vraiment voir jour, je ne peux penser qu'à une destinée, une vision, un amour. Universel et sans limite, donc infini et plein spirit, ermite apologique. Mon hip hop n'est que cosmique, style posé. Donc ma prose vit juste, vite crier. Ceux qui tapent plein cruste, vision claire et limpide. Pour qu'aujourd'hui l'on voit le changement, le soleil se lève au loin et déjà éclaire nos rangs. Straight to the top.